Jean Bosco, Douimane.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. L'avocat conseil de Sandra Muhoza du journal La Nova réclame sa libération pure et simple. Il estime que la déclaration d'incompétence de la cour d'appel de Mukasa annule tous les actes déjà posés, y compris la peine déjà prononcée par le tribunal de grande instance de Mukasa. Sandra Muhoza a comparu ce mardi à Ngozi. La section langue dans les écoles de la ville de Rumonge connaît un faible taux de fréquentation par les élèves. Le ministre de l'Éducation reconnaît quant à lui que la non-maîtrise de la langue d'enseignement qu'est le français constitue un défi. Alors que le choléra est rapporté dans plusieurs zones de la province Bujumbura, le gouverneur de cette entité administrative initie une série de mesures préventives, dont l'interdiction de se serrer les mains pendant les salutations. Voilà pour le sommaire.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Comparution ce mardi de la journaliste Sandra Muhoza du journal La Nova au tribunal de grande instance de Ngozi. Ses avocats demandent tout simplement sa liberté provisoire, arguant que Sandra est illégalement incarcérée. Pour rappel, la cour d'appel de Mukasa s'est déclarée incompétente pour juger cette affaire et a demandé son transfert en Ngozi où la présumée infraction aurait été commise. Selon Maître Prosper Nyoyangana, la déclaration d'incompétence de la cour d'appel de Mukasa annule tous les actes déjà posés, y compris la peine déjà prononcée par le tribunal de grande instance de Mukasa, d'où la demande de cette libération après plus d'une année d'emprisonnement. Sandra Muhoza a été arrêtée en Ngozi en avril 2024, puis incarcérée à la prison centrale de Mimba, accusée d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et aversion raciale. La section langue dans les écoles de la ville de Rumonge connaît un faible taux de fréquentation par les élèves, de quoi inquiéter les responsables scolaires. En effet, sur 3 écoles visitées, aucune ne dépasse 10 élèves par classe, même s'ils y avaient été orientés. Et les conséquences de cette situation sont évidentes au niveau des lauréats des universités. Parents et éducateurs qui se sont exprimés sur nos micros alertent le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique afin de sauver cette section qu'ils considèrent comme base de l'enseignement au Burundi. Jean-Pierre Misago.
Au lycée communal urbain de Rumonge, la classe de première langue compte seulement 6 élèves et aucun des 25 qui y avait été orienté ne s'est présenté selon le préfet des études à cette école. Au lycée Saint-Augustin de Bilimba, la classe de première langue compte 9 élèves. Ici, 23 élèves y avaient été orientés, mais un seul s'est présenté, déclare Désiré Nkurunziza, directeur de ce lycée, affirmant avoir appris de certains élèves qu'ils accusent beaucoup de lacunes en français dès l'enseignement fondamental et préfèrent pour cela l'enseignement technique où le français est moins pondéré. Au lycée communal islamique de Rumonge, la classe de première langue compte 10 élèves, dont 5 figurent parmi les 32 élèves qui y avaient été orientés, selon Trifose Harimana, préfète des études à ce lycée. Avec une telle considération de la langue française qui est une langue d'enseignement au Burundi, Désiré Nkurunziza trouve que les lauréats du fondamental risquent de bouder également l'enseignement technique utilisant aussi le français. Lui et le préfet des études au lycée communal islamique demandent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique d'arrêter des mesures de nature à sauver cette section et partant tout le système éducatif burundais, étant donné qu'il repose sur ces langues et particulièrement le français. Alors que les écoles visitées ont encore des élèves dans les premières années de langue, certaines écoles éloignées de la ville de Rumonge n'ont aucun élève dans les premières années de langue et même dans les autres sections d'enseignement général comme les sciences et les sciences sociales et humaines, selon des sources sur place à ces écoles. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro.
Et le ministre de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique reconnaît cet état de fait et ajoute que la non-maîtrise de la langue d'enseignement qu'est le français, aussi bien par les élèves que par certains enseignants, affecte la compréhension d'autres cours. François Vyarimana s'exprimait lors de la présentation des réalisations de son ministère au cours de l'année scolaire 2024-2025. Il a informé que cela résulte d'un rapport d'enquête réalisé sur la qualité de l'enseignement dans 20 pays, dont le Burundi. Entre autres propositions d'amélioration figurent l'augmentation du nombre d'heures de cours de français par semaine.
Dans l'objectif de lever certains défis observé dans notre système éducatif et en complément à cette évaluation internationale, une équipe technique a été mise en place pour faire une analyse rétrospective du système éducatif burundais, identifier les défis actuels et proposer des solutions appropriées pour relever la qualité de la formation et de l'éducation à tous les niveaux. Cette équipe technique a produit un rapport avec des propositions concrètes pour améliorer la qualité de notre système éducatif. Ce rapport a été réanalysé et enrichi dans un atelier regroupant toutes les parties prenantes, dont les enseignants, les parents, les responsables scolaires, les responsables des entreprises publiques et privées, des confessions religieuses, les représentants syndicaux, les représentants du peuple et j'en passe. Le rapport final enrichi a été déjà transmis à l'autorité hiérarchique pour analyse en Conseil des ministres. Brièvement, le rapport constate amèrement la non-maîtrise de la langue d'enseignement qui est le français par la plupart des élèves et certains enseignants et propose des ajustements à faire, notamment pour les élèves et étudiants futurs enseignants. Il propose aussi une formation continue des enseignants en fonction. La non-maîtrise de la langue d'enseignement affecte en effet négativement le niveau de compréhension dans les autres disciplines. Un autre défi qui doit être levé selon ce rapport concerne le temps d'apprentissage qui actuellement ne respecte pas la norme exigée en la matière. Le rapport propose par conséquent des ajustements à faire pour augmenter le temps d'apprentissage. Il propose ensuite la mise à jour des matières enseignées, en vue de s'aligner aux évolutions du moment, mais également pour mettre un accent particulier sur le développement des compétences dans des filières stratégiques susceptibles de contribuer au développement de notre pays.
François Vyarimana, c'est le ministre en charge de l'Éducation nationale. Le mandat du rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme au Burundi a été renouvelé ce lundi et prendra fin en octobre 2026. Au cours de l'Assemblée générale tenue à Genève lundi, certains pays ont soutenu l'idée de cette prolongation alors que d'autres l'ont rejetée. Le mandat du rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme au Burundi date de 2015. Lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 23 pays ont voté pour la prolongation du mandat de Fortuné Gaëtan Zongo. 9 voix exprimées étaient contre et 15 abstentions.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Certains habitants du quartier Mutanga Sud, précisément à Mugoboka 2 et Gichacha à Gihosha Rural, dans la province de Bujumbura, se disent préoccupés par le manque d'eau potable et se voient obligés de puiser l'eau sale de la rivière Nahangwa. Ils demandent aux autorités concernées, aux âmes charitables, de leur venir en aide afin qu'ils n'attrapent pas les maladies des mains sales. Un reportage d'Alexis Ndaïsinga.
Debout sur les berges de la rivière Nahangwa, dans le quartier Mutanga Sud, on voit certains habitants de Mugoboka 2 et Gichacha de Gikungu Gihosha Rirar en province de Bujumbura venir puiser de l'eau dans cette rivière comme s'il s'agissait d'un robinet public. Selon eux, le manque de l'eau potable est une réalité. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'y approvisionner.
Nous buvons l'eau telle qu'elle est, qu'elle soit claire ou sale, et nous l'utilisons toujours dans la cuisson car nous y sommes habitués.
C'est une situation alarmante et effrayante. Nos enfants souffrent de vers intestins et risquent de devenir handicapés à cause de cette eau insalubre que nous leur faisons boire.
En plus des maladies déjà observées, les habitants s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants car descendre jusqu'à la rivière est également dangereux. Pour eux.
Nous avons peur que nos enfants rencontrent des problèmes, car pour aller puiser de l'eau à Nahangwa, il y a des glissements de terrain dus à l'érosion de la rivière Nahangwa. Les maladies liées au manque d'hygiène ne manquent pas, choléra, amibes et autres. Certaines personnes qui ne sont pas habituées à cette eau ont eu des diarrhées après en avoir bu.
Du côté des autorités locales, on dit ne pas comprendre pourquoi, alors qu'il avait été promis de leur fournir de l'eau potable, mais que cette promesse n'a jamais été concrétisée, ou alors l'eau qui avait été amenée ne coule plus aujourd'hui.
Il y a une grande pénurie d'eau. L'eau s'est raréfiée, surtout quand il ne pleut pas. On est alors obligé d'utiliser de l'eau de la rivière Nahangwa. On avait essayé de nous aider en installant des citernes avec de l'eau à amener par camion. Mais tout a été arrêté. Nous ne savons même pas pourquoi cela s'est arrêté.
Ces habitants, tout comme les autorités locales, demandent à ceux qui en ont la responsabilité et les bienfaiteurs de venir à leur secours, à leur fournissant de l'eau potable.
Alexis Findaïsenga. Le gouverneur de la province Bujumbura appelle la population à respecter les mesures d'hygiène dans le but de lutter contre le choléra. Lors d'une réunion ce lundi avec le Premier ministre et les investisseurs dans le secteur agro-pastoral, Aloïs Ndaï Kengouruki a indiqué que cette épidémie a atteint un niveau élevé depuis ce mois de septembre et qu'elle a déjà causé la mort de 6 personnes. Il demande aux autorités administratives de sensibiliser les populations au respect des mesures d'hygiène afin d'éviter d'autres pertes en vies humaines. On l'écoute.
Nous avons constaté qu'au cours du mois de septembre, le choléra a atteint un niveau le plus élevé depuis 2020. Il est donc impératif que chacun respecte strictement les mesures d'hygiène. L'un des problèmes reste l'accès aux toilettes. Par exemple, à Outerere, sur 1700 parcelles, plus de 400 ne disposent pas de latrine. Cela pousse certaines personnes à faire leurs besoins dans des sachets qu'elles jettent ensuite dans les caniveaux ou les rivières. C'est une situation très préoccupante qui exige une action collective et urgente. Nous avons pour objectif d'éradiquer définitivement ce fléau. C'est pourquoi des mesures ont été mises en place, notamment la mobilisation des autorités administratives afin qu'elles informent et sensibilisent leurs administrés. Les responsables du ministère de la Santé nous ont rappelé qu'à l'époque de la COVID-19, aucun cas de choléra n'avait été signalé grâce au respect strict des mesures d'hygiène. Nous devons donc réinstaurer certaines de ces pratiques. Nous appelons chacun à contribuer à cet effort concrètement. Il est demandé d'éviter les salutations par poignée de main. Une salutation verbale suffit. Il faut mettre en place les dispositifs de lavage des mains devant tous les lieux publics, écoles, marchés, lieux de culte, etc. La situation est grave. Les premières pluies sont déjà là. Et si rien n'est fait immédiatement, le nombre de cas va continuer à augmenter. Nous comptons sur vous, responsables communautaires et leaders locaux, pour nous aider à sensibiliser la population. Le choléra est présent dans toutes les communes de la province. N'entendons pas que d'autres vies soient perdues. 6 personnes sont déjà décédés. C'est déjà trop.
L'augmentation de la production et le renoncement au crédit intérieur sont quelques-unes des stratégies à adopter dans le court et dans le long terme pour réduire l'inflation au Burundi. C'est l'avis de Diomé Deninheretse, économiste, lors d'un café de presse organisé ce mardi par l'Olucom. Il estime que le gouvernement devrait réduire l'émission de la masse monétaire. Suivez-le.
Pour le court terme, je crois qu'il faut absolument faire une politique d'augmentation de la production parce que l'inflation est toujours créée par le déséquilibre entre l'offre et la demande. Il faut absolument augmenter la production dans les domaines où nous avons des potentialités, notamment l'agriculture. Surtout en passant par la phase de la transformation par des unités de production pour finalement rendre durables les produits que nous produisons chaque année. Ça, c'est la première action qu'il faut faire le plus urgentement possible. Deuxième action qu'il faut faire, c'est effectivement essayer d'arrêter de chercher des crédits au niveau intérieur du pays. C'est-à-dire essayer de chercher les crédits pour le long terme et surtout dans le domaine d'investissement où on compte effectivement avoir des moyens pour payer la dette. Je crois qu'il faut alors faire une stratégie de mobilisation des financements, surtout pour des projets rentables et qui vont dans le sens de l'investissement, en évitant des crédits à court terme et surtout au niveau local. La troisième action possible, c'est effectivement arrêter ou bien réduire l'émission de la masse monétaire sans qu'il n'y ait pas la production des biens et des services sur le terrain. Aujourd'hui, alors, de cela, il faut encore une fois réduire l'écart entre le taux officiel des devises. Autrement dit, il faut essayer d'éradiquer le phénomène des marchés noirs. Les marchés noirs qui, aujourd'hui, au niveau de la BRB, on informe les gens qu'un dollar coûte 3 100 francs, alors que sur le marché noir, c'est plus de 7 000. Donc, autrement dit, il faut essayer de rapprocher ces deux marchés comme d'autres pays, comme la Tanzanie le font, comme le Rwanda, comme le Kenya. Donc, il faut absolument essayer de réguler la masse monétaire par rapport aux biens et services que nous produisons dans le pays. La quatrième action, c'est la coordination, de gérer ce qui existe. Certes, nous avons des devises. Les devises sont mal gérées parce qu'il y a certains commerçants qui, au lieu d'importer les produits de première nécessité, les commerçants se livrent à acheter des produits non essentiels, autrement dit, qui ne contribuent pas au niveau de l'augmentation de la production. Tout cela doit avoir une certaine coordination et surtout à chercher cette manière de réguler cette situation qui est devenue intenable.
Les députés et les sénateurs expriment leurs préoccupations par rapport au manque d'infrastructures dans certaines zones, alors que le nombre de travailleurs a augmenté suite à la nouvelle réorganisation administrative. Ils ont exprimé cette inquiétude ce mardi lors de la présentation par le Premier ministre du rapport semestriel sur l'exécution du budget pour l'exercice 2024-2025. À ce sujet, Nestor Naounouye a indiqué que le gouvernement prévoit de trouver des lieux de travail pour ces travailleurs zonaux et là où il n'y aura pas de bâtiments à louer, l'État s'engage à construire rapidement des infrastructures nécessaires afin de leur permettre de bien accomplir leur mission. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.
Jean Bosco, Douimana.